midi 13h, les tables de Manu avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Je t'avais cette dessus de table, moi, Manu. Vous voyez, je suis un peu perdu.
Mais
c'est bien les tables de Manu aussi. C'est bien aussi les tables de Manu, l'émission qui met les pieds dans le plat. Mais là, ça ne veut plus rien dire.
Ben ouais, non, là, c'était bien dessus de table aujourd'hui.
C'est bien.
On va parler. Ce qui nous arrive.
Bon, Manuel Mariani, le retour, critique gastronomique, un rond de serviette dans toutes les tables du monde entier. Ça va, Manu?
Presque. Surtout à Paris, Philippe. Surtout à Paris.
Oh non, oui, j'ai beaucoup, Manu.
Oh, un petit peu.
Bien, savez-vous manger des choux aujourd'hui? On va parler de choux, le chou dans tous ses états, Manu, avec notre invité aujourd'hui.
Oui, notre invité, c'est Fernando de Tomaso.
Oui, bonjour tout le monde, bonjour Beurre FM, Emmanuel Mariani, d'ici des tables pour nous avoir invités, en espérant éclairer un peu les mondes du chou.
Ben, merci à vous d'être venu. Alors, nos auditeurs verront que vous avez un petit accent, parce que vous êtes effectivement argentin, Fernando.
Tout à fait.
Voilà, et puis bon, alors le chou dans la cuisine argentine, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu quand même, surtout dans la cuisine créole argentine.
Tout à fait.
Donc ça, vous nous en parlerez un petit peu, même si vos origines, vous, c'est pas créole. Et puis, vous êtes bien placé pour parler du chou, puisque vous avez un restaurant aujourd'hui à Paris, Biondi, rue Hamelot, dont on parlera tout à l'heure, parce qu'on est venu dîner avec Philippe en préparant l'émission. Mais vous avez travaillé, entre autres, avec un grand chef qui est Alain Passard.
J'ai vu la chance.
Et Alain Passard, qui est quand même le grand ponte des légumes. Hein, c'est lui qui a remis un peu...
On peut les papes.
Le pape du légume. Ouais, on peut l'appeler comme ça. C'est un peu lui quand même qui a remis le légume au goût du jour qui lui a rendu ses lettres de noblesse au restaurant L'Arpège.
C'est pas un sujet sexy, le chou, hein, finalement.
Bah, en fait, le chou, c'est très assimilé à une cuisine paysanne, donc simple, pas raffinée. Sauf que, bah, justement, des gens comme Alain Passard, et puis d'autres en leur temps, hein, Joël Robuchon, moi je me souviens dans les années 80 d'une recette de Joël Robuchon, c'était du chou farci au foie gras, c'était cuit à la vapeur, c'était quelque chose de simple, mais tellement bien réalisé, c'était exceptionnel. Il y a des recettes comme ça, puis un chou farci, quand c'est un petit peu révisité de façon un peu gastronomique, avec des bonnes techniques, ça peut être quelque chose de magnifique. Puis d'ailleurs, on parle beaucoup en ce moment, tous les restaurants se réclament de la bistronomie, hein, c'est la grande mode. La bistronomie, c'est justement ça le principe, c'est de prendre des aliments simples et peu coûteux, hein, on va cuisiner, au lieu de cuisiner du bar, on va cuisiner du macro, au lieu de cuisiner des légumes ultra chers, on va cuisiner des légumes comme le chou, mais on va le cuisiner avec des techniques de haute gastronomie qui vont leur rendre, comme je le disais tout à l'heure, leur lettre de noblesse. D'ailleurs, vous Fernando,
justement, je pense qu'effectivement, les choux, il n'y a pas d'énigme pour nous, les cuisiniers ou les jeunes chefs, parce qu'on adore travailler une légume des difficultés, qu'on peut l'appeler. Par contre, pour les communs des mortels, quand ils se retrouvent en face d'un chou vert frissé ou un chou pointu... Il est là, l'émission, ça peut servir aujourd'hui à éclairer un peu plus pour pas plus avoir peur et l'utiliser pour faire des couscous, pour faire une michotée, pour faire un pot-au-feu cet hiver, pour faire un chou-fleur blanc au four, que ça peut être un excellent apéritif.
Pour gratin.
Ouais, tout à fait.
Est-ce que quand un chef met du chou à la carte, ça marche, ça fonctionne?
Il faut le savoir et mélanger avec un autre produit, je pense, actuellement. On ne peut pas donner... Il y a la cuisine libanaise qui offre des mi-choux, des choux entiers.
Qu'on cuit. Alors, il y a le chou-fleur qu'on met entier dans la braise.
Tout à fait, ouais.
Ça, c'est un... Bah, d'ailleurs, Rania pourra nous en parler, parce qu'on mange ça aussi en Palestine, parce qu'on va avoir Rania, des petits... Bah, on peut peut-être la prendre tout de suite au téléphone, Rania.
Elle est là, c'est la magie du direct, Manu.
C'est la magie du direct.
Ah oui, là, incroyable.
À l'Orania.
Une émission à gros budget, hein, avec un duplex.
Comment ça va? Mais qu'est-ce que vous faites là, Rania? On parle de cuisine palestinienne et vous êtes là. Comment ça se fait?
Ah bah écoutez, vous savez que nous, le chou nous inspire énormément.
Bon alors, ben, je sais bien. Alors ça, bon alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Rania, parmi les auditeurs de Beurre FM, Rania, donc qui est
chef
cuisinière, traiteur.
Elle est chef avec deux F.
Elle est chef à domicile. Voilà les petits plats palestiniens de Rania. Alors la cuisine palestinienne et le chou, et d'ailleurs notamment le chou-fleur, c'est un peu une histoire commune.
Ah oui, totalement. Vraiment, le chou-fleur fait partie, le chou-fleur et aussi le chou vert ou blanc, fait vraiment partie de notre quotidien. Et c'est vraiment un légume qu'on retrouve du matin au soir chez nous.
Même le matin.
Aussi bien. Oui, parce qu'en fait, nous, nous mangeons des petits déjeuners tardifs.
Oui, c'est vrai qu'on mange des soupes ou des salades aussi, parfois au petit déjeuner. Donc, d'où peut-être le chou
Plutôt salade, plus que soupe. Le soupe, ce sera plutôt pour le dîner. Mais c'est vrai qu'on adore tout ce qui est frit. Et le chou-fleur en fait partie.
Mmh. Alors, donc, le chou ou le chou-fleur parce que les deux.
Le chou-fleur.
Oui.
Le chou-fleur.
Donc, c'est plus le chou-fleur. Hein.
Oui. Alors comment ça d'ailleurs
pour le matin.
D'accord. Alors comment s'appelle cette recette de chou qu'on met entier dans les braises, si ça porte un nom particulier?
Alors ça, franchement, on n'en fait pas trop.
Ah bon?
Vraiment, on n'en fait pas. Nous, on utilise le chou-fleur, par exemple, pour les sandwichs, on va le faire frire.
D'accord.
Et en bouquet, ça résonne. J'ai un écho, donc tu m'entends.
Est-ce que vous avez votre radio ou est-ce que vous êtes en main libre, Rania? Vous avez votre radio allumée à côté de vous?
Non.
Non, vous n'êtes pas en kit main libre non plus?
Non plus.
Haut-parleur.
Ou haut-parleur.
C'est pas grave, je vais faire avec. Donc, on fait des bouquets de choux-fleurs et on les détache, on les fait frire et on les enroule, on les met dans du pain pita avec du citron et un peu de piment et on referme le pain et on le déguste soit le matin, soit pour le déjeuner ou un encas.
Alors, c'est effectivement ça que j'ai goûté, mais je pensais que moi, c'est frit. Moi, je pensais que c'était grillé à la braise. Donc c'est une erreur de ma part. Non, ok. Donc c'est frit. Donc c'est bien ce dont je parlais, mais c'est frit. C'est pas.
C'est incroyable comme sandwich ça.
Après,
rien que l'idée.
C'est possible qu'ils passent ça au Moyen-Orient, en Syrie ou en Jordanie ou au Liban.
Peut-être oui.
C'est
peut-être.
Mais c'est vrai qu'on fait très peu braiser le chou-fleur. C'est vraiment beaucoup frit et ça fait. En général, on le met sur un plateau accompagné d'autres légumes comme l'aubergine et on mange ça donc soit pour les repas rapides du soir, soit pour le matin. Voilà.
Alors Rania, une recette que vous connaissez bien, vous nous en aviez parlé pendant le tour du monde. C'est le marloubé, c'est le riz renversé au chou-fleur.
Oui.
Pourquoi renverser déjà? On a fait tomber la casserole, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors en fait, c'est vraiment un plat traditionnel palestinien qui ressemble à un espèce de gâteau de riz. Et en fait, c'est un système de strates. Donc vous allez avoir une première strate avec de la viande ou du poulet. Ensuite, une strate avec les légumes, dont les bouquets de chou-fleur frits.
D'accord.
Les pommes de terre, le riz épicé. On rajoute le bouillon de la viande ou du poulet. Et une fois que le riz est cuit, nous renversons la casserole sur un plateau. Et au moment du démoulage, oh magie, ça tient comme un gâteau.
Oui, ça fait une espèce de comment dire, comme une charlotte un peu. Hein, je sais pas comment on pourrait raconter ça, mais
une tarte tatin.
Oui, voilà, un millefeuille au chou-fleur. Alors ça c'est un plat traditionnel. C'est un plat qu'on mange toute l'année. C'est un plat traditionnel, c'est répandu.
Ah oui, c'est un plat traditionnel qu'on mange toute l'année, souvent le vendredi au moment des réunions de famille ou lorsqu'on veut faire plaisir à quelqu'un.
Ça remplace le couscous au Maghreb le vendredi, on mange le marloubé, c'est ça?
Oui, on peut dire ça, on peut dire ça comme ça.
Alors d'ailleurs, vous donnez une très bonne recette de marloubé sur votre site, c'est l'occasion de rappeler votre site internet, Les Petits Plats Palestiniens. Donnez-nous l'adresse du site, Rania.
C'est le petit plat palestinien wordpress.com.
D'accord. Et pas que. Hein, d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres adresses. Vous donnez la recette du malfouf aussi sur votre site ou pas?
Oui. Alors, vous trouverez la recette du malfouf et qui est à base de chou vert.
Ouais, c'est un chou farci blanc. À la palestinienne, en gros, quoi, le malfouf pour les auditeurs.
Ce sont des rouleaux. En fait, on va détacher feuille par feuille. On va blanchir les feuilles afin de les rendre plus tendres et on va faire des rouleaux avec chaque feuille, avec une farce de riz épicée avec de la viande hachée.
Un peu comme les feuilles de vigne grecque farcies au riz, c'est en version palestinienne avec du chou, quoi.
Exactement, exactement. Et c'est accompagné de beaucoup, beaucoup d'ail. C'est-à-dire qu'on va, prendre vraiment peut-être deux gros ail.
Donc à ne pas consommer avant un rendez-vous Tinder, évidemment. Hein.
Ouais, c'est un... oui, à éviter. Hein. Et puis à éviter de sortir pendant 2-3 jours.
Ah oui, carrément. Donc beaucoup, beaucoup d'ail.
Non, parce qu'en fait, la feuille est vraiment très, très bien blanchie. L'ail, une fois cuit...
se digère très bien.
Et c'est assaisonné avec beaucoup de citron également. Donc c'est vraiment un repas que tout le monde attend avec impatience, parce que c'est vraiment un plat d'hiver et qui est apprécié par la majorité des Palestiniens et qu'on adore.
Mmh. Oui, alors puisqu'on parle de digestion, je fais juste un aparté et je vous rends la parole après Rania. Bon, pour ce qui est de l'ail, hein, c'est, l'émission n'est pas consacrée à l'ail, mais pour ce qui est de l'ail, de toute façon, si on enlève le germe, l'ail est très digeste.
Il n'y en a pas que ça. Je vais donner une autre recette.
Il y a une deuxième chose. Alors, il est un petit peu plus cher, mais il est quand même bien meilleur. Achetez de l'ail rose.
Tout à fait, laissez l'ail frais.
L'ail frais, rose. Là, je peux vous dire que vous n'aurez aucun problème de digestion et surtout au niveau du goût. Hein, l'ail de Lautrec, par exemple, qui est absolument exceptionnel au goût, qui vaut 30-40% plus cher que l'ail, mais qui est absolument hyper digeste. Puis là, il n'y a jamais de germes dedans. Donc,
Moi, pour adoucir toute la puissance de l'ail, je le blanchis.
Ah, d'accord.
Donc,
oui.
Je le mets dans une casserole l'eau bouillante et à peine 15 secondes. Hein. Mm-hmm. Donc, ça va les sortir un peu la puissance. Il y a des gens qui s'aiment, il y a des gens qui ne s'aiment pas. Nous, on utilise beaucoup.
Moi, l'ail, j'adore ça, moi. Donc,
mais bon, voilà. Dans la restauration,
c'est
il faut
bien ce que
être
je me disais, Manu, vous aimez beaucoup l'ail. Hein.
Oui,
ouais,
oui.
C'est bien ce que je me disais.
C'est pour ça que vous vous tenez à distance.
Ouais, là, exactement.
Mais revenons au chou, parce qu'on parle souvent des inconvénients du chou au niveau de la digestion, ça peut créer des gaz, etc. Et quand même, la chose à faire quand vous cuisez du chou-fleur, c'est de mettre un petit peu de bicarbonate de soude dans l'eau de cuisson.
Oui, tout à fait.
Et ça enlève mais totalement les inconvénients digestifs du chou. Donc là, c'est plus une excuse pour ne pas manger de chou. Avec une petite cuillère à café de bicarbonate dans l'eau de cuisson, ça annule absolument tout. Je ne sais pas si vous utilisez, vous, cette technique.
Tout à fait. Et en plus, je conseille...
Ça garde la couleur, en plus.
Et si on fait une farce avec les choux, utilisez un peu de cumin. Et le cumin... Et l'épice cumin, il va aider à nous faire passer des bonnes soirées.
On utilise le cumin en Argentine, Fernando?
Oui, le comino, il s'appelle.
C'est vrai, comino. Ouais.
Nous, on a eu la chance d'avoir beaucoup d'immigration de toutes les régions du monde. Donc, chaque immigration, il a porté ses épices et ses savoir-faire.
Oui, c'est comme la cuisine Nikkei en Amérique du Sud, hein, qui est la cuisine japonaise des migrants... des migrants japonais qui étaient venus construire les lignes de chemin de fer en Amérique du Sud.
Ouais. Tout à fait.
Rania, quelle variété de choux on mange le plus? Vous nous avez parlé de chou-fleur, mais on mange d'autres variétés de choux en Palestine?
Ah oui, alors ce sera le chou blanc. Et non, beaucoup de chou blanc.
Ça, c'est dans les salades, beaucoup, c'est ça, hein.
Alors, déjà, le chou blanc, on va l'utiliser donc pour les rouleaux de choux farcis.
D'accord.
On l'utilise aussi beaucoup en pickles, et c'est-à-dire qu'on va les couper en lamelles et le mettre dans un mélange salé sucré.
Oui, eau, vinaigre et sucre.
On est plus sel. On remplace le vinaigre par le sel.
D'accord.
Okay. Et du sucre. Donc, ce qui va aider à la fermentation et.
Oui, c'est plus en saumure qu'en.
Exactement. Ouais. Et beaucoup aussi, ouais. En fait, c'est vraiment l'essentiel, c'est le chou-fleur et le chou blanc, et en salade, le chou rouge.
D'accord, oui, le chou rouge qu'on retrouve d'ailleurs dans les pitas, quand on mange des pitas, hein, le chou est assez présent.
Oui, et puis nous avons une autre recette aussi qui est vraiment, que je trouve délicieuse et tellement originale. C'est la recette du mtafrayeh, Donc là, on va encore retrouver des bouquets de choux-fleurs qu'on va faire blanchir tout d'abord et ensuite frire légèrement et qui va cuire dans une sauce de yaourt. Et on va terminer donc la cuisson avec une légère friture à l'ail. Donc la sauce au yaourt est faite aussi dans un bouillon à l'agneau. Et ça, c'est vraiment très très particulier et c'est vraiment extrêmement savoureux.
Est-ce que, comme en France, il y a beaucoup de plats mijotés dans lesquels on met du chou, Rania?
Beaucoup de plats.
Des cuissons longues, je parle.
Ah oui, en cuisson longue, oui. On fait énormément de plats mijotés et des ragoûts. Beaucoup.
D'accord.
D'ailleurs, c'est l'une des cuissons principales de la viande ou du poulet dans nos recettes.
Ok, d'ailleurs, on parlait du côté parfois indigeste du chou, de l'ail, etc. Bon, là, on va faire une pause, mais après la pause, je vous demanderai à vous, Fernando et Rania, si on consomme le chou et puis d'autres choses pour des raisons digestives. Puis je vous parlerai un petit peu des bienfaits, Philippe, hein, du chou et des variétés. Et puis, parce qu'il y a des variétés, il y en a une ribambelle. Donc apprendre à les reconnaître et puis aussi les saisons, Philippe.
Très bien, dessus de table, c'est jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Manu, savez-vous manger des choux ce matin? Voilà. Et donc, si on parle de choux ce matin...
On a un petit écho, oui.
Ouais, si on parle de choux ce matin, c'est parce que c'est bientôt la saison des choux, Manu. La saison des choux qui démarre en hiver.
Oui, et comme vous avez pu le voir, on est revenu à dessus de table.
Oui, j'ai vu. Mais voilà. Ça nous a coûté un écho.
Ça nous a coûté un écho, oui, absolument. Alors, la saison des choux. Alors, il n'y a pas une saison des choux, il y a des saisons des choux, Philippe, parce qu'il y a beaucoup de variétés de choux. Je vais commencer d'abord par les bienfaits du chou. Maintenant qu'on a expliqué aux auditeurs comment faire pour résoudre les problèmes digestifs liés au chou, c'est-à-dire un petit peu de bicarbonate.
À chaque fois, vous avez mis un petit peu de flatulence.
Non.
Des problèmes liés au chou.
Laissez-moi tranquille avec vos flatulences, Philippe. Non. Donc, on va pouvoir parler des bienfaits. Alors, le chou, on peut en manger quotidiennement. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. C'est un légume qui est une légumineuse même, qui est à pratiquement un peu plus de 90% d'eau. Donc c'est quelque chose qui apporte une satiété, mais qui est très sain et très bon. Il y a beaucoup de composants dans les choux, et notamment au niveau de la prévention pour les divers cancers. Et d'ailleurs, selon les variétés de choux, c'est préventif pour certains types de cancers, donc c'est bien d'en manger. Mais une chose à savoir, c'est qu'au niveau du chou, si vous voulez, comme sont des principes actifs qui sont... Il y a beaucoup d'eau dans le chou, hein, 90%, donc c'est très soluble, très volatile, surtout quand on le cuit. Je vous donnerai une petite astuce après. C'est qu'il faut, quand vous mangez du chou, il faut en manger au minimum 250 grammes. Si vous en mangez moins, les principes actifs qui sont contenus dans le chou, ils n'auront
pas efficace.
Aucun effet, ouais, absolument. Et puis, alors ça peut ne pas être agréable de manger du chou tous les jours, mais il y a quand même plus de 10 variétés différentes, donc on peut alterner entre les choux, les choux-fleurs, puis on peut le préparer cuit, on peut le préparer en salade, on peut le préparer cuit de tout un tas de manières, hein, en gratin, mijoté, blanchi, à la vapeur. Donc il y a vraiment des recettes très variées. D'ailleurs, on demandera à Rania et Fernando de donner quelques idées de recettes simples à faire à nos éditeurs. Alors, qu'est-ce qui contiennent vraiment les choux, Chili? Ben, essentiellement des vitamines, principalement des vitamines A, B1, B2, C et B9. B9 qui sont assez rares dans les aliments, d'où l'intérêt de
manger du chou.
Ouais. Alors, c'est justement ces vitamines qui sont d'ailleurs des provitamines, donc des probiotiques. Et du coup, c'est là qu'on va avoir l'effet préventif. Hein. Vous savez, les antibiotiques, c'est ce qu'on consomme quand on est malade. Ben, les probiotiques, c'est ce qu'on prend pour pas tomber malade. Alors, ces provitamines, elles permettent de se prémunir de plusieurs maladies, comme notamment les cancers. Alors attention, hein, si vous avez un cancer, ne vous dites pas « j'arrête mon traitement, je mange du chou et je vais guérir ». C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, très loin de là. Mais avoir mangé du chou régulièrement, et comme je dis, minimum 250 grammes quand vous en mangez, 250 grammes cru, c'est-à-dire après ce qui reste une fois cuit, c'est pas non plus une quantité impossible à manger, ça peut vous aider à vous prémunir de diverses maladies. Alors, il y a beaucoup de...
J'ai vu que Rick Azara, il s'était transformé en Manuel Mariani ce matin.
C'est vrai, absolument. Ouais, absolument. Ouais. J'ai amené ma bassine, Philippe. Ouais. Hein. Alors, certains choux sont également bonnes pour les personnes qui veulent perdre du poids. Alors, souvent, les gens qui veulent perdre du poids, quand ils font des régimes, ils se plaignent d'une chose, c'est la satiété. Alors le chou, comme il est vraiment gorgé d'eau, 90%, on le disait tout à l'heure, quand on mange du chou, on atteint rapidement la sensation de satiété sans consommer beaucoup de calories. Donc ça, c'est un atout pour les gens qui veulent faire du régime, très peu calorique. Hein, il apporte la sensation de satiété rapidement.
Et alors, vous commencez quand ?
Ah bah écoutez, moi je mange du chou régulièrement, Philippe.
Ah oui, mais pas assez, là, visiblement.
Écoutez, moi, je ne suis pas au régime, mon cher. Si le jour où je serai au régime, c'est que je serai au chômage.
Ah, c'est vrai. Il y a un gène du chou. En fait, si les gens n'aiment pas le chou, c'est génétique.
Oui, alors ça, vous m'apprenez quelque chose.
C'est l'INSERM. Ah, hein, ouais, il y a un gène. Il y a des gens qui n'aiment pas le chou, mais ça serait génétique. C'est une étude de l'INSERM.
D'accord.
Voilà.
Bah écoutez,
l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale.
Docteur
voilà. Voilà, mais c'est surtout vrai pour les choux de Bruxelles. Et donc, cette aversion aux choux de Bruxelles serait génétique.
Alors, puisque vous parlez des choux de Bruxelles, ouais. Parce que vous voulez qu'on parle des diverses variétés de choux.
Allez-y, Manu.
Alors, on vous fait...
Par exemple, le brocoli, c'est un chou.
Alors, c'est un chou dit chou-fleur. Hein. Voilà, ça fait partie des choux-fleurs, le brocoli. Alors, il y a plusieurs variétés de choux-fleurs. Alors, le brocoli vient d'Italie, comme son cousin le romanesco. Mais je vais commencer par les choux tout court. Hein. Alors, il y a le chou qu'on appelle chou commun, hein, c'est le chou vert. Celui-là, on le consomme d'août à février, donc on est en plein dans la saison. Et celui-là, il est originaire d'Asie. Il a été amené en Europe par les peuples celtes. Donc, c'est un chou qu'on connaît depuis très, très longtemps. Alors, lui, il a principalement des vitamines A, B1, B2. Et donc, si on mange minimum de 150 grammes, je le répète, de chou vert, ça vous apporte l'apport suffisant en vitamines A, B1, B2 pour toute la journée. Donc, en hiver, hein, pour les fraîches journées d'hiver, c'est plutôt pas mal à savoir. Et ça permet de rester en bonne santé. Donc, la famille des choux, là, je parle pas des choux-fleurs, hein, mais les choux, c'est la famille des brassicacées. Et donc, les brassicacées, on le sait, ça prévient de certaines maladies. Alors, le chou vert commun, donc, qu'on trouve d'août à février, lui, c'est principalement tout ce qui est poumon. Et puis, ça peut prévenir aussi, parce que c'est très alcalin, ça peut prévenir aussi les ulcères, hein, qui touchent le système digestif. Alors, autre variété. Alors oui, une chose aussi, alors ça c'est valable pour tous les choux, c'est que le chou, comme il y a beaucoup d'eau, le chou supporte très bien la congélation. Il y a des légumes, quand vous les mettez au congélateur, ça les cuit. Hein, là effectivement, Fernando, le chou supporte assez bien le congélateur, si on veut en manger hors saison.
Moi, personnellement, je ne le mets pas au congélateur, mais apparemment, vous êtes bien renseigné. Non, où je veux venir, c'est effectivement tous les bienfaits du chou. Après, on se retrouve avec les choux dans les mains et il faut le cuisiner.
Non, mais c'est ça le truc.
Là, je pense qu'il faut.
Parce que là, il est en train de nous vendre sa pharmacie. Mais maintenant, il faut passer à l'action, Fernando.
Effectivement, il faut donner des astuces, je pense, aujourd'hui, pour que les gens y perdent la peur.
Et varier
l'alimentation aussi, il faut le dire, à niveau de prix, c'est une légume assez accessible. Donc, on peut donner à manger à une famille, ou à des invités, ou se faire plaisir même. Moi, il y a un chou que j'adore, c'est le chou de Bruxelles. C'est une recette très, très technique, parce que nous, en cuisine, on épluche
feuille à feuille
les choux de Bruxelles. Ensuite, on le met dans l'eau glacée. Pour le maintenir vraiment
vert
et surtout le maintenir avec une fraîcheur incroyable. Après on le poêle vraiment à bif, on le poêle 30 secondes avec de l'ail. C'est exquis. On peut le mettre sur la viande, sur les poissons, sur de l'agneau. Et vraiment, ça donne un côté très, très gourmet et très croquant parce que le chou, il est à peine cuit. Un peu torréfié avec de l'ail. Après,
moi, il y a une chose que j'adore, c'est quand le chou de Bruxelles commence à devenir brun, c'est-à-dire quand on le fait croûter un peu. Moi, quand je fais des choux de Bruxelles, ouais. Moi, je les blanchis vraiment 10 secondes. Blanchir, donc à l'eau bouillante salée, mais vraiment 10 secondes, je les refroidis tout de suite pour arrêter la cuisson à l'eau. Je les laisse s'égoutter sur un papier absorbant. Et après, je les poêle avec un mélange d'huile d'olive et de beurre. Je les poêle à feu assez vif pour les faire croustiller un petit peu, croûter, comme on dit en
c'est intéressant, les choux, parce qu'on peut ou vraiment l'attaquer totalement, j'allais dire attaquer à niveau des cuissons, on peut le cuire pendant une heure et demie,
oui.
Ou on peut le faire un peu cru,
comme ça,
ou croustillante.
Ouais.
Je pense qu'il est là, tout le monde veut cuire les légumes, et cuire les choux de Bruxelles au point de perdre la couleur. Il faut garder la couleur du légume, il ne faut pas avoir peur de
perdre
blanchir.
La couleur et de perdre aussi, je parlais des
vitamines.
Des vitamines, parce que si vous faites cuire du chou, on en parlait avec Philippe ce matin en buvant notre café, le chou, quand on le cuit à l'eau, il faut garder l'eau de cuisson. Vous faites un petit bouillon avec, parce que comme il y a 90% d'eau dans le chou, quand vous le cuisez à l'eau ou quand vous le cuisez à la vapeur, tous les nutriments vont partir dans le bouillon. Donc, profitez-en, mettez un petit bouquet garni, vous agrémentez votre bouillon, ou alors vous gardez juste l'eau de cuisson des choux et vous le faites après. Rania, on parlait des choux de Bruxelles à l'instant. Est-ce qu'on trouve des choux de Bruxelles en Palestine ?
On en mange vraiment très très peu. C'est pas trop dans notre culture, le chou de Bruxelles.
D'accord. Et à titre personnel, ça vous arrive d'en manger ? Non, vous qui avez des enfants, est-ce que vous arrivez à faire manger des choux de Bruxelles à vos enfants ?
J'avoue que non.
On vous entend très loin, Rania.
Oui, vous m'entendez mieux ?
Oui, on a des petits problèmes de son aujourd'hui.
Voilà, on a récupéré Rania.
Allez-y, Rania.
Oui, vous m'entendez mieux ?
Oui, parfaitement.
Super. Non, je vous avoue que moi, je cuisine pas trop le chou de Bruxelles. Je suis plus vraiment axée chou vert, chou blanc ou chou fleur. Parce qu'on a quand même, comme je vous l'ai expliqué, on a quand même une culture où on cuisine beaucoup le chou de manière générale et on a pas mal de recettes qui sont associées. Donc, c'est vrai que j'ai pas trop grandi du coup avec le chou de Bruxelles, personnellement. Je sais que ma maman avait plus une époque à essayer, alors que j'étais enfant, de me faire manger du chou de Bruxelles. Alors, je sais pas si c'est génétique ou pas, comme l'indiquait Philippe tout à l'heure, mais ça passait pas. Bon.
Alors, Rania, et puis on posera la même question après à Fernando. Est-ce que dans la cuisine palestinienne, et puis on verra après dans la cuisine argentine, est-ce que le chou est considéré comme un alicament, c'est-à-dire un aliment avec des bienfaits pour la santé?
J'ai connu pas mal de personnes ayant des problèmes, des symptômes au niveau du côlon, qui faisaient de la désintox avec de la soupe au chou.
Ouais, la fameuse détox avec la soupe au chou notamment. C'était un régime à la mode hein. En France à une époque, là, le régime soupe au chou, ce qui n'est pas complètement idiot d'ailleurs, parce qu'effectivement, comme je disais, ça apporte la satiété, puis il y a beaucoup de nutriments dedans, donc ça permet de ne pas être carencé, de ne pas avoir le sentiment de faim, tout en ayant très peu de calories. Et alors en Argentine, chez vous, Fernando, est-ce qu'il y a une culture du chou aliment sain ?
Que la viande, il reste... la reine de notre nourriture principale.
Dans le pays du churrasco.
Les 10 dernières années, un peu moins. Et on a passé un peu à la volaille et au cochon. Mais les légumes, le chou, il reste quand même, effectivement, dans des plats, des michotés, dans les plats typiques argentins, qu'on utilise beaucoup aussi des maïs et de potiron.
Oui, j'ai remarqué, on marie souvent le maïs et le chou dans la cuisine.
Tout à fait,
oui. Qu'est-ce qu'il y a, ça, c'est un bon mariage?
On pense que c'est le mariage idéal. Maïs et chou, je pense qu'effectivement, les deux, ils méritent de la fermentation. Donc, on utilise beaucoup pour faire des empanadas, pour faire des petites galettes croustillantes, pour faire les plats michotés. D'accord. Effectivement, oui.
Oui, dans la cuisine, je précise pour les auditeurs, quand on fait des plats mijotés avec du maïs et du chou, c'est pas le maïs en grain hein, comme on le mange nous en France, ni en boîte, c'est le maïs frais qui est coupé en gros tronçons.
Tout à fait,
hein,
ouais.
Fait mijoter.
Nous, on a une culture de maïs.
Ça garde le croquant, ça garde le. Ouais.
Tout la culture inca du Pérou, qu'il allait de l'Équateur jusqu'à l'Argentine. C'était la route du maïs. Donc, effectivement, au nord argentin, on fait plein de plats à base de maïs et on rajoute ou chou-fleur, ou chou-violette, ou chou-blanc.
Ouais, alors justement, le chou-fleur, parlons-en, parce que le chou-fleur, donc ça, c'est une autre variété. Hein. Il y a le chou qui est une variété, le chou-fleur qui est une autre variété. On les assimile un petit peu, parce que c'est vrai, quand ils sont entiers, ils se ressemblent un petit peu avec les grosses feuilles qui protègent le cœur. Alors, le chou-fleur, lui, c'est intéressant parce que on le trouve pratiquement 12 mois sur 12. Hein. Mais la vraie saison du chou-fleur, c'est octobre à avril. Mais on en trouve, il a un petit peu moins de goût, mais il est tout aussi bon pour la santé, 12 mois sur 12. Et le chou-fleur, lui, il a une particularité, c'est que pour les gens qui sont carencés en vitamine C, le chou-fleur est vraiment rempli de vitamine C. Alors, en plus, on peut le cuisiner de toutes les façons. On peut le cuire à l'eau, on peut le faire à la vapeur. On peut le manger cru, on peut faire des pickles avec, comme le disait tout à l'heure Rania. On peut le faire en gratin aussi. En gratin, c'est délicieux.
Ah, c'est un légume infini.
Voilà. Et si vous avez une mandoline vous pouvez faire des petites tranches très fines de. Et puis alors, il y a un truc que j'adore avec les choux-fleurs, ça se fait aussi avec du brocoli, du romanesco, ou pourquoi pas mixer les trois. C'est quand on a les petites fleurs de choux-fleurs ou de romanesco ou de brocoli, on les râpe avec une râpe à fromage. Et ça fait comme des petits grains
copeaux,
de semoule. Et on peut faire des taboulés.
C'est exactement ce que j'allais dire. J'attendais juste que tu termines.
Ah, pardon. Ben voilà.
Alors Rania, si vous attendez que Manu termine, alors, vous pouvez attendre longtemps.
Ah, hein,
parlez-nous
pas beaucoup.
Parlez-nous de ce taboulé, de ce couscous de chou-fleur.
Manu, il faut que je m'impose un peu plus.
En plus, vous n'êtes pas là physiquement aujourd'hui, donc.
Oui. Non, mais c'est vrai que ces dernières années, pour le taboulé, il arrive aussi qu'on remplace le fameux boulgour par du chou-fleur. Et c'est absolument délicieux.
C'est génial. Et ça donne un petit croquant, super.
Oui, c'est magnifique, effectivement, le petit côté croquant. Et aussi par rapport à la famille du chou-fleur, il faut savoir qu'en Palestine, on a une deuxième sorte de chou-fleur qui est aussi, mais en revanche, qui est très saisonnier. On retrouve essentiellement au niveau du, je crois que c'est le printemps, si je ne veux pas dire de bêtises, qu'on appelle le chou-fleur baladi. C'est l'équivalent en fait, du chou-fleur paysan. Et la particularité de ce chou-fleur, c'est sa couleur. Il est jaune. Il n'est pas blanc. Mais il a exactement la même fleur que la même forme que le chou-fleur classique blanc qu'on connaît. Sauf qu'il est jaune et qu'il a un goût un peu plus prononcé. Et tout le monde se jette dessus. Tout le monde en achète et tout le monde fait du chou-fleur, des recettes de chou-fleur avec le baladi.
Ouais, c'est ce qu'on appelle le chou de printemps en France, Rania, qui est qu'on trouve de juin à août, qu'on appelle aussi le chou cabu.
D'accord.
Bien. Alors, dans un instant, on va marquer une petite pause. On va parler de ce fameux chou dont tout le monde parle, qui est devenu très à la mode.
Ah.
C'est le chou cale. Alors, on dit cale, kale.
Alors, calé, cale, kale. J'ai entendu les trois. Voilà. Je n'ai pas la réponse. J'ai demandé à des amis américains qui me disent qu'aux États-Unis, on dit kale ou calé. Pareil.
Voilà, donc, dessus de table, calé, jusqu'à 13h, ce bord FM.
Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beur FM.
Eh oui, savez-vous manger des choux, vous l'avez bien compris ce matin, il faut manger des choux parce que c'est bon, et en plus c'est bon pour la santé.
Alors, absolument, oui. C'est le double effet qui se coule là avec les choux. et les choux-fleurs, qu'il ne faut pas oublier non plus, qui sont délicieux. Alors, on parlait tout à l'heure, juste avant la pause, on parlait du chou-fleur, et on parlait des différentes façons de cuire le chou-fleur. Alors moi, j'ai découvert dans un restaurant chinois une façon de cuire le chou-fleur qui est absolument fantastique. C'est tout simplement des petites fleurettes de chou-fleur qu'on roule dans du piment et du cumin, qu'on met sur des pics à brochettes et qu'on fait griller cru comme ça. Et franchement, c'est avec un tout petit peu d'huile sur la plaque ou dans la poêle. Et franchement, c'est le truc le plus simple du monde à faire. Et c'est absolument délicieux.
Essayez, c'est vrai, Fernando, que le chou, il mérite toujours un petit piquant pour élever le côté un peu... je pense qu'il y a deux textures. Moi, je le travaille, par exemple, entier. On le cuit vraiment entier. Je fais beaucoup ça à la maison quand j'ai fait mes convives. Parce que je trouve assez intéressant les goûts et la texture du chou. Après, au restaurant, pour exemple, on fait beaucoup des crèmes très lisses, très délicates. Et là, on retrouve la délicatesse qui peut aller très bien avec des amandes, avec des lassins-chacs, avec du chivier. Le chou-fleur, il va très bien.
Oui, le chou-fleur en purée avec une très bonne crème crue, un peu de beurre, ça peut être quelque chose de délicieux.
Très, très.
C'est Joël Robuchon qui cuisinait énormément le chou-fleur en purée, comme ça.
Et le chou entier, c'est quelque chose pour moi très simple à faire à la maison, parce que déjà il faut savoir que quand on achète des choux, il faut demander, si on va pas l'utiliser tout de suite, il faut le demander avec toutes les branches qui vont avec. Oui. Ah, si les choux, ils tiennent, par exemple, le 3, 4 ou une semaine dans les frigos, pour qu'ils soient vraiment bien alimentés par les fleurs qu'il y a autour. Donc après, pour le mettre au four, c'est une recette. Moi, je le découpe à peine. Je le mets au four entier. Je mets du piment, du beurre, d'huile d'olive. Et je rajoute aussi, on peut rajouter un peu plus des épices. Moi, je mets un tout petit peu de cumin aussi pour le arroser. Et je mets des papiers aluminium qui ne gratine pas, sinon qu'il y a la cuisson. C'est une longue cuisson, c'est 40 minutes, 45 minutes.
À quoi à 70 degrés, on fait basse température ou on met quand même un peu de...
180.
180. Ah oui, non, mais ça veut dire qu'il va compoter un peu le chou dedans.
Pas du tout.
Non,
pas du tout.
Il reste bien croquant.
Bien croquant, il va être fondant à l'intérieur. Ouais. Et après 10 minutes avant, on le sort et le papier aluminium pour qu'il gratine un tout petit peu. Mais les secrets, c'est le arroser avec une petite cuillère, prendre tous les liquides, même rajouter un peu d'eau pour accompagner la cuisson de semi-vapeur qu'on a créé au four. Et c'est vraiment on peut rajouter à ça une petite yaourt à côté. Donc on a le chou tiède, qu'on le coupe en deux ou en quatre, si on est quatre ou six, et vraiment franco, et on met un petit yaourt frais à côté.
Et vous parliez d'arroser le chou avec le beurre, ça le chou et le beurre, ça c'est un mariage gagnant, une embeurrée de chou, Philippe, je ne sais pas si vous aimez ça, mais...
J'adore.
Faire braiser.
C'est magnifique.
Ah bah, moi, alors franchement, les choux, quand vous coupez du chou en lanière comme ça, vous le faites sauter avec un petit peu accru comme ça, avec un petit peu en lanière, avec un petit peu de beurre et d'huile pour pas que le beurre brûle. Et puis après, vous rajoutez un petit peu de bouillon dedans et vous laissez braiser comme ça. Ça, c'est quelque chose.
Moi, pour la manger des tonnes. À la manière indonésienne.
Mmh. Ah, alors, Rania, expliquez-nous ça.
Oui, les Indonésiens cuisinent énormément le chou, exactement comme vous venez de l'expliquer, et ils l'associent avec d'autres légumes en lanière ou en julienne, comme avec la carotte. C'est souvent association chou-carotte.
Capchay,
ça s'appelle.
Capchay, c'est
ouais.
Ça ouais. Capchay. Ouais. Ah, oui, parce que choy, effectivement, c'est le
chou.
Parce qu'il y a le chou chinois aussi, le bok choy. Hein.
Ah, je connais moins.
Oui, mais moi je connais bien ce plat-là. C'est, ouais. C'est magnifique.
J'ai pu rencontrer pas mal d'Indonésiens au cours de ma vie, d'Indonésiennes, mais qui me faisaient les recettes. Il y avait toujours du chou en lanière revenu dans du beurre, sauté, légèrement caramélisé et revenu mélangé avec du riz ou des nouilles.
Ouais, c'est ça. Alors, on explique pour les auditeurs, si vous voulez faire ça, il faut que le feu soit assez soutenu, parce que si vous mettez le feu trop bas, le chou, il va vous déverser toute son eau, et là, effectivement, il sera plus caramélisé, il sera un peu bouilli. Hein. Donc, toujours un feu vif. Hein.
Et puis, l'idée, c'est de garder un peu de croquant aussi.
Oui. Alors, dans les pays asiatiques, on trouve deux variétés de choux. Il y a le bok choy ou pak choy, qui est le chou chinois. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle le pet sai. Alors, le pet sai, il est couleur vert tendre avec des pétioles blancs. Les pétioles, c'est la partie basse. Et alors, celui-là, moi, je vous donne un conseil, c'est toujours enlever la partie blanche parce qu'elle est extrêmement amère. Mais si on la cuisine sans la partie blanche, c'est absolument délicieuse. Et puis, moi, j'aime bien, il a un goût un petit peu piquant, un petit peu poivré, le pak choy.
Le pak choy, c'est très intéressant dans la restauration parce que ça met toujours en évidence l'assiette. On met un petit pak choy gratiné ou poêlé et ça fait toujours du... Le pak choy, il va très bien avec la sauce soja. Je me permets de dire, il y a un peu d'ail, c'est très simple à faire, couper en deux.
Il n'y a pas de hasard, ouais.
Couper en deux, blanchir. Moi, je conseille à la maison et déblanchir et les choux pour avoir une tranquillité pour la cuisson, parce que sinon c'est trop bif. Par contre, les blanchiments qui dépassent pas une minute. Et après, le bloquer avec l'eau glacée, parce que les choux, ils blanchissent et ils le laissent à l'eau chaude.
Oui, ça continue à cuire, hein, si on ne refroidit pas.
Donc, il faut bloquer à l'eau salée, l'eau glacée. Ça veut dire un bol avec de la glace pour que la cuisson y s'arrête. Et après, le refaire ensemble. Moi, je vais faire un pain aussi pour le chou calé, qu'il est très salamment.
Ouais. Alors, chou calé ou chou kale, comme on dit parfois.
Le chou calé, il est devenu très très à la mode aux États-Unis, à la Californie. Je pense que c'est les premiers qui sont.
Alors, ça vient d'Hollande à la base.
Voilà.
Et c'est les Hollandais immigrés aux États-Unis qui ont emmené le chou calé ou kale, selon les.
Tout à fait. Eux, ils le savent faire à tout la sauce. Hein. Ils font des jus, ils font
des chips,
des cocktails, chips.
Mais justement, vous avez chacun cité les deux seules façons sous la forme desquelles j'aime le chou calé ou chou kale. C'est soit en chips comme ça, juste frit, soit en jus. Mais alors, Fernando, justement, vous nous parlez un peu de votre cuisine, mais votre cuisine, si nos auditeurs ont envie de la goûter, il y a un endroit où ils peuvent aller, c'est votre restaurant, c'est Biondi.
Tout à fait, ouais.
Alors, Biondi, donc on est allé dîner chez vous avec Philippe jeudi soir. Est-ce qu'on peut dire que vous faites de la cuisine argentine revisitée ou vous faites vraiment de la cuisine argentine traditionnelle ?
Ah non, c'est tout à fait revisité parce que moi, je suis revisité déjà. Je suis venu de l'Argentine. Ça fait 15 ans que j'habite à Paris. Donc, j'ai associé des techniques de mon pays parce que dans cet restaurant, on a la chance d'avoir un foyer avec la Bresse. Donc effectivement, on passe les foie gras à la Bresse, les viandes à la Bresse. De temps en temps, on fait des légumes à la Bresse.
Oui, la Bresse est dans l'ADN de
ma culture.
Ouais. Alors, on arrive au bout de l'émission. On va donner l'adresse de votre restaurant. Donc c'est Biondi 118 rue Amelot.
Tout à fait.
Il y a un site internet, hein, biondiparis.fr. Vous êtes fermé le dimanche et le samedi midi. Voilà, je dis juste en deux mots, parce qu'on est vraiment tout au bout de l'émission, ce qu'on a mangé chez vous. On a mangé des empanadas, des carne avec une petite salade et un jus de viande. Je veux dire que le jus de viande était délicieux. J'aurais aimé en avoir carrément un pot à côté pour en manger un petit peu plus. Et puis on a mangé une superbe viande, un bife de lomo, qui était absolument tendre.
Voilà. Et sérieuse.
Et sérieuse.
Voilà. Et sérieuse pour les gens qui aiment la viande et qui ont un gros appétit. Ouais. Voilà.
Et puis on.
Il faut le dire, parce que pour les viandards, vous voyez, c'est sérieux.
Et puis, pour vous parler du reste de la carte du restaurant Biondi, on sera obligé de faire revenir Fernando, puisqu'on est au terme de l'émission. Merci aussi, Rania, d'avoir été avec nous. On rappelle rapidement votre. Allô
Oui, je vous écoute.
Oui, on rappelle rapidement votre. Sur Facebook, peut-être, les petits plats palestiniens de Rania sur Facebook. Après, on a tout, votre site et tout ça.
Sur Facebook, sur Instagram et mon blog.
Voilà, mariage, traiteur, cours de cuisine palestinienne.
Merci.